Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage. Aujourd'hui, avec moi, deux décrypteurs comme d'habitude. D'un côté de la table, Serge Mauck, prêtre diocésain dominicain, et Sairi Oraibi, étudiante en journalisme. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Très bien, mieux que le temps, que cette météo capricieuse et très peu printanière. Mais la joie dans le cœur, c'est le plus important.
Ah oui, ça va.
Bah moi ça va super aussi, parfait.
Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons de cette dame en Flandre qui a porté plainte contre l'Église pour s'être vue refuser l'accès à la formation des diacres. Mais avant cela, nous allons aussi parler du sujet chaud du moment en politique, le décret paysage. En dernière partie d'émission, nous aurons vos zooms et Pierre Granier nous rejoindra pour nous présenter le journal dimanche de la semaine. Alors ma question c'est la même que d'habitude, hein, de quoi vont parler vos zooms en deux mots ?
Alors mon zoom, il va parler sur un artiste qui s'appelle Saint Levant et il a performé à Coachella ce week-end, donc je pense que ça peut être intéressant.
Voilà, on reparlera donc de Saint Levant tout à l'heure. Merci Sairi. Et Serge, vous allez nous parler de...
J'animais un week-end une session dans un centre spirituel qui s'appelle La Pérelle et se pose la question de l'avenir de ces centres spirituels, de ces lieux qui représentent beaucoup de frais. Et de leur pérennité, de ces lieux où les personnes vont se ressourcer, vont souffler, etc. Ça me paraît important.
Voilà, on a donc deux sujets très différents l'un de l'autre et on reviendra là-dessus en fin d'émission. Le fameux décret paysage, il est loin d'être neuf et je vous propose d'en faire un rapide historique, en tout cas je vais essayer d'être rapide. Donc il est aussi appelé décret Marcourt et il organise l'ensemble des études supérieures depuis la rentrée académique 2014-2015. C'est donc la 9e année scolaire qu'il s'applique et à l'origine ce décret avait pour objectif d'harmoniser le système belge francophone au modèle européen. Chaque cours de l'enseignement supérieur vaut un certain nombre de crédits, une année académique compte pour 60 crédits et pour réussir et pour suivre les cours à la rentrée, les étudiants doivent alors obtenir au minimum 45 crédits, soit trois quarts de leur programme. Les crédits restants étaient alors reportés sur le programme de l'année suivante. En 2020, il y a eu des constats d'effets pervers du décret Marcourt, et donc dont un allongement considérable de la durée des études. Et c'est alors que la ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini, a annoncé vouloir réformer le décret paysage. Sa réforme est signée en 2021 par MR, PS et Écolo. Les conséquences de la réforme sont que les étudiants doivent, depuis la rentrée académique 2022-2023, après deux ans d'études, avoir validé au minimum tous ses crédits de première année et après quatre ans avoir réussi 120 crédits minimum, soit l'équivalent du programme de deux années. Et enfin, après cinq ans, l'étudiant doit avoir validé 180 crédits qui composent son cycle d'études. Alors que les effets de la réforme sont pleinement mesurables à la fin de l'année scolaire, la FEF, la Fédération des étudiants francophones, a tiré une sonnette d'alarme il y a quelques semaines en avançant un chiffre de 70 000 étudiants qui ne seraient plus finançables à la rentrée. Ce chiffre vient d'une étude menée en 2021 et n'est pas vérifiable à l'heure actuelle. Le PS et Écolo ont donc proposé un moratoire d'un an pour geler les conséquences avant de se rallier à l'avis des recteurs et des rectrices et de proposer des amendements à leur propre texte. J'arrive à la fin de mon explication. Et le texte qui a été voté par une majorité alternative mercredi, majorité alternative constituée de PS, Écolo et PTB, c'est donc un texte modifié. Il prévoit aujourd'hui, d'une part, une année de transition supplémentaire pour les étudiants qui ont débuté dans le système Marcourt, et d'autre part, la règle des 60 premiers crédits à engranger en deux ans maximum est assouplie à 45 crédits pour la rentrée prochaine, et le critère de la réussite d'un programme annuel de 45 crédits minimum est abandonné. L'étudiant aurait également davantage de temps pour se réorienter. Il a droit à deux inscriptions supplémentaires s'il se réoriente, même s'il a déjà passé deux ans sur une première année. Et la conséquence de ce vote, c'est que le MR se dit trahi par les partenaires de la majorité. Certains ont déjà d'ailleurs mentionné que le gouvernement était en affaires courantes. Alors... ça, c'était tout l'historique. J'espère que je n'ai pas trop embrouillé nos éditeurs. Sairi, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes étudiante. Vous finissez votre master en journalisme cette année. Donc, a priori, vous ne serez pas concernée par les conséquences de ces différentes réformes. Mais est-ce qu'autour de vous, les étudiants se sont fortement inquiétés de cette réforme du décret paysage ?
Alors effectivement, comme vous le dites bien, je ne suis plus concernée parce que je suis à la fin de mon cycle. Et même pendant mes études, en général, je réussissais assez bien. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'ai mes frères et j'ai ma sœur et j'ai aussi des amis qui sont actuellement dans les études. Et j'ai une amie à moi qui était fortement touchée parce qu'elle avait, comme on dit, traîné beaucoup de casseroles sur plusieurs années. Donc, elle était bien entendu impactée. Et je ne vous cache pas que là, maintenant, récemment, avec ce qu'a fait PS et Écolo, raffiner leur demande, ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup rassuré, en tout cas, certains de mes amis autour de moi qui sont étudiants, bien sûr.
Serge, vous êtes à Louvain-la-Neuve, vous êtes entouré d'étudiants au quotidien, si on peut dire. Est-ce que vous entendez les mêmes discours ? Est-ce que ça rassure cette nouvelle réforme depuis mercredi ?
Oui, et toujours impliqué dans l'université aussi, et j'ai donné pas mal de cours ces dernières années. Donc nous avons l'expérience de terrain de la complexification importante des cycles d'études et de l'individualisation, la quasi-individualisation des parcours des étudiants, je dirais quasi personne par personne, mmh. avec des moyens pour les universités qui restent plus ou moins, dont le montant reste plus ou moins bloqué, quoi. Et c'est de plus en plus difficile et énergivore sur le terrain que de rencontrer toutes ces difficultés. Alors je crois que d'une part, on peut comprendre les étudiants et leurs revendications et les entendre. D'autre part, je crois qu'il y a dans les situations des étudiants beaucoup, beaucoup de diversité. Et donc, il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui sont parfois, et ce n'est pas nécessairement de leur faute, mal orientés ou qui ont des difficultés à trouver leur voie et qui sont véritablement dans des impasses. Et moi, je peux comprendre les frustrations. Mais d'autre part, je crois que le poids que représente la gestion de cette quasi-individualisation des parcours, ce poids, il est également, c'est le cas de le dire, très très pesant et très bouffeur de temps et d'énergie pour le personnel et pour la vie quotidienne des universités. Je peux en être témoin après les années de Covid de la surcharge administrative qui doit être absorbé, qui doit être digéré. Et là, je crois que il y avait quand même un consensus assez général, je pense, et qui se traduit par la prise de position des recteurs sur le fait qu'il était peut-être temps de tirer les conclusions du fameux décret paysage, du décret Marcourt, et en revenir à davantage de pragmatisme. Alors, je crois que ici, on a assisté à une très mauvaise pièce dans un contexte très compliqué, parce que d'une part, on vote dans quelques semaines, d'autre part, les étudiants sont en train d'entrer en blocus, et on rentre dans une très grande insécurité. Et je crois que cela n'est jamais bon pour personne. Donc moi, je suis assez troublé, assez déçu par ce que j'entends et ce que je décode ou ce que je décrypte, c'est le cas de le dire.
Alors, vous avez parlé du fait que des jeunes sont dans des impasses parce que mal orientés. Ils ont maintenant deux chances de se réorienter avant de devenir non finançables. Cela veut dire que leur finançabilité et donc leur possibilité de poursuivre sereinement leurs études dépendent de s'ils savent ou non ce qu'ils veulent faire pour le reste de leur vie. C'était déjà le cas avant, maintenant ils ont une chance de plus qu'avant. Est-ce qu'on peut vraiment attendre que des jeunes de 18-19 ans qui sortent du secondaire puissent faire le choix assez facilement et rapidement de ce qu'ils veulent faire de leur vie?
Alors, c'est une bonne question. Je ne vais pas faire de généralité sur tous les jeunes de 18-19 ans, mais moi, personnellement, quand je suis sortie de la secondaire, je ne savais pas du tout quoi faire. Et l'école ne m'a pas du tout aidée. On m'a conseillé de faire un test de ce que j'aimais, mais au final, je suis sortie et je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai dû trouver directement ma vocation pendant les mois de vacances d'été. Mais donc oui, je pense que vraiment, et ça c'est à faire plus au niveau secondaire, aux jeunes qui sont encore mineurs, de les réorienter dès ce moment-là, je pense, pour savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient faire peut-être.
Serge ?
Moi, je crois qu'il y a effectivement une diversité d'étudiants, mais il y a aussi un certain nombre. Je crois que de mon expérience de ces dernières années, je crois que l'éventail des étudiants quant à leur profil, quant à leur maturité, etc., quant à la recherche de leur voie, cet éventail est de plus en plus large et de plus en plus contrasté. On a des étudiants, d'une part, qui se débrouillent très bien par eux-mêmes, ont des idées assez claires de ce qu'ils ont envie de faire et de leur gestion du temps et de la gestion de leur programme. On a un peu même l'impression, et ce n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, qu'ils ont assez peu besoin du support des académiques, des scientifiques, etc., qu'ils vont leur chemin, qu'ils prennent leur chemin par eux-mêmes, et c'est très bien ainsi. Il y a d'ailleurs une désaffection par rapport au qu'on entend un peu partout par rapport aux auditoires et par rapport à l'assistance aux cours, certains étudiants demandant simplement que on leur donne, je dirais, les cassettes ou les enregistrements des cours et qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Je crois que c'est une certaine catégorie d'étudiants.
Mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie.
Et alors, il y a les autres pour qui on proclame à la fois que tout est possible, mais au sujet desquels on sait aussi que tout n'est pas possible. Donc il y a pour le moment il y a eu ces dernières années une grande insistance sur l'égalité. Dans un paysage antérieur, on avait des différences claires entre des formations de type cours, par exemple, dans certains métiers techniques, des formations un peu intermédiaires d'ingénieurs industriels, des formations plus approfondie de type ingénieur civil, par exemple, pour prendre ce secteur-là. Mmh. Alors maintenant, tout le monde, ce sont des bacs, tout le monde fait des bacs, et ces bacs sont réputés égaux, mais ces bacs nécessitent évidemment des compétences et des acquis différents. Alors moi, je comprends totalement que des étudiants sont perdus, sont largués dans cette jungle des possibilités, et qu'ils ont du mal à trouver leur voie. Alors je crois que tu avais raison de dire c'est bien en amont qu'il faut prendre les choses, mais on n'est plus non plus dans une société où on a des références relativement précises, quoi, dans la façon dont, je vais pas parler d'un temps qui n'existe plus, mais dans l'enseignement, on avait par exemple pendant très longtemps des titulaires de classe, par exemple. Mm-hmm. Ils existent toujours, mais on avait des enseignants qui donnaient un nombre significatif de cours à des élèves de tel ou tel niveau, et notamment de fin d'humanité, et qui étaient en mesure quand même de les guider, et de leur donner un certain nombre d'orientations, un certain nombre de conseils, quoi. Ici, on a un peu l'impression aussi que dans la vie quotidienne, que plus grand monde ne se mouille, que tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et qu'on est là dans une situation qui est beaucoup plus confuse, et je pense que on en paye un certain nombre de conséquences. Et bon, c'est un argument qui revenait dans la bouche de la ministre de l'Enseignement, et à cet égard, je comprends sa réaction.
Alors, dans ce dossier, on a beaucoup parlé d'électoralisme. On a déjà mentionné le fait qu'on vote dans quelques semaines. Est-ce que vous avez vu ça, que le PS et Écolo auraient proposé la réforme de la réforme uniquement pour obtenir des voix auprès des jeunes universitaires? Est-ce que c'est la sensation que vous avez, Sari?
Je sais que on peut penser, parce que de base ils avaient conclu avec le MR, ils étaient tous d'accord, et là à quelques temps des élections, ils changent d'avis. On sait qu'ils ont changé, donc ils avaient proposé le moratoire, et puis après ils ont affiné leur demande pour correspondre aux recteurs et aux rectrices des universités. Mais je pense que c'est une possibilité. Après, je suis pas sûre, mais Je ne sais pas comment ils justifieraient, eux, leur changement. Peut-être j'ai entendu qu'ils disaient qu'on ne pouvait pas savoir le nombre d'étudiants qui étaient réellement impactés jusqu'à les examens.
Jusqu'à septembre, oui.
Voilà. mais du coup, ils le savaient dès le début qu'ils n'allaient pas avoir les chiffres maintenant. Donc, pourquoi changer maintenant ? C'est une bonne question, mais je ne sais pas.
Est-ce que, selon vous, ils l'auraient fait si les élections n'avaient pas été au tournant ? Serge ?
Ils sont les seuls à pouvoir répondre. Maintenant, nous sommes clairement dans une période suspecte. Donc, on avait quand même, il y a tout de même pas si longtemps qu'on a entendu apparaître ce brûlot de 70 000 étudiants qui seraient impactés, avec quand même la baudruche qui se dégonfle quand même majestueusement. Alors, je crois qu'il y a eu un effet l'impact, c'est un effet papillon, ou peut-être pas tout à fait papillon. Il y a les groupes d'étudiants d'extrême gauche qui sont quand même extrêmement actifs dans le mouvement étudiant, et c'est leur droit, qui ont pesé évidemment sur le PTB, qui est en concurrence à gauche avec les deux autres. Et on ne peut pas s'empêcher de croire qu'il y a eu devant cette montée en puissance du PTB une peur des autres partis de gauche d'y laisser des plumes aux élections et donc de s'aligner. Alors c'est sans doute un choix stratégique. Il faudra voir dans quelle sera la réaction de la population par rapport à cela.
Vous remensionnez le chiffre de 70 000 étudiants. Je pense qu'une précision peut être apporté. Donc ce chiffre de 70 000, il est avancé par la FEF sur une étude qu'ils ont fait en 2021. Selon nos confrères de l'Écho, le chiffre réel, de nouveau c'est une estimation parce qu'on n'a pas les chiffres des examens qui ne sont pas encore passés, il serait entre 20 et 25 000 étudiants qui auraient pu être impactés négativement si ça restait comme ça. Vous parliez tout à l'heure, Serge, de rationaliser à nouveau le système scolaire dans le supérieur. Il fut une époque que moi-même je n'ai pas connue parce que j'étais touchée par le décret Marcourt où la réussite elle était à 12 et non plus à 10. Il fallait réussir tous ses cours pour passer d'une année à l'autre. Donc le décret Marcourt permet aux étudiants de continuer d'avancer malgré quelques échecs. La réussite est aussi descendue à 10 en même temps. Est-ce qu'il y a, selon vous, une meilleure façon ou une autre de pouvoir réussir ses études en supérieur ou même de manière générale ?
Je crois qu'il y a en tout cas une nécessité dans une formation de devoir franchir des obstacles et d'être confronté à une formation cohérente qui se déploie dans le temps avec un contenu, etc., qui se répartit sur deux années, sur trois années, etc., sur des cycles. Donc je crois que le décret Marcourt est bien venu à son heure, il est venu fluidifier quelque part et corriger peut-être ce que les systèmes anciens avaient généré, c'est-à-dire l'échec de toute une année pour une seule cote, etc. On pouvait se demander dans les jurys dans quelle mesure c'était tout à fait justifié. Donc le décret Marcourt est venu corriger un ancien système qui avait sans doute ses dérives, mais qui avait le mérite de la cohérence. Alors, il y a une question, moi, qui me préoccupe, c'est que cette souplesse permet le slalom, quoi. Et donc, finalement, de se réorienter, d'éviter les difficultés, de moduler son parcours, etc. Que tout est à peu près, beaucoup de choses sont possibles. Alors, il y a certainement une prime à la liberté, à la créativité. Ça, c'est le bon côté des choses. Mais il y a aussi une prime à ne plus surmonter les obstacles. Et je crois que les obstacles, quelles que soient les orientations de vie que l'on prend et les engagements de vie, dans toute vie, il y a des obstacles. Je crois qu'on est à ce niveau-là dans une société qui, assez facilement, n'admet plus la sanction, n'admet plus les obstacles et qu'on se Et finalement, qu'on se plaint relativement vite et qu'on se trouve traité injustement, etc. Et donc, tout cela, ça conduit plus globalement une société qui est un peu asphyxiante aussi de ce côté.
Ça vous parle, ce que Serge est en train de dire, ça?
Alors, oui, bien sûr, parce que avant que le décret paysage soit proposé, c'est vrai qu'il y avait, vous dites, un système cohérent.
L'ancien régime, pourrait-on dire, pour simplifier. Voilà.
L'ancien régime était plus cohérent, comme vous dites, mais le gouvernement belge, ils ont proposé le décret paysage justement parce qu'il y avait ce problème de finançabilité. Et que les études étaient trop longues, les études étaient rallongées, et donc ils ont tenté de réduire en fait le temps que les étudiants passeraient à étudier. Donc je pense que de base c'était un bon décret, c'est une bonne idée. Peut-être c'est pas la bonne solution, mais il fallait réagir à ce problème des études trop longues.
L'évaluation des premières années, c'est ça le problème, conduit à un résultat inverse, c'est de montrer qu'il n'y a pas eu un raccourcissement, une simplification des études, qu'il y a eu un allongement, une complexification. Et donc, je crois que ça, c'est la ratio legis, comme disent les juristes, la raison de la loi et la raison de la modification de ce que le gouvernement de la communauté Wallonie-Bruxelles a pris comme option, et que d'ailleurs tout le monde à peu près a voté comme un seul homme. Ce n'est pas par hasard non plus qu'il y a eu une unanimité. On n'a pas entendu de grandes guerres et de sorties des couteaux au moment où on a évalué le projet Marcourt, enfin la législation Marcourt. Je crois qu'il y avait entre les politiques et les recteurs, etc., il y avait quand même un très grand consensus pour aller vers une simplification.
Effectivement.
Alors, je vous propose de faire une petite pause en musique et de nous arrêter là sur ce sujet du décret paysage. On en entendra encore beaucoup parler de ce décret, je pense. Et nous allons écouter Supertramp avec Give a Little Bit. Et puis, on se retrouve dans un instant pour parler d'une plainte qui a été déposée la semaine dernière contre l'Église.
See the man with the long hair.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
Et nous sommes de retour dans ce décryptage. Aujourd'hui, je reçois Sari Oreibi, étudiante en journalisme, et Serge Mauque, prêtre dominicain diocésain. Et dans cette seconde partie de l'émission, nous allons revenir sur une plainte déposée en Flandre contre l'Église. Alors la personne qui a porté plainte est Vere Dussauchois, originaire de Herent dans le Brabant flamand. Elle a saisi la justice en raison du refus de l'Église de lui permettre d'accéder à la formation de diacre. L'affaire sera examinée le 14 mai prochain par le tribunal de première instance de Malines. Alors Madame Dussauchois est active au sein de sa paroisse. Elle a déposé une demande écrite pour suivre une formation de diacre. L'Église lui a répondu que cette fonction n'était actuellement pas ouverte aux femmes et que sa candidature ne pouvait donc pas être traitée. Selon elle, cette décision viole le principe de l'égalité de genre et la loi. Les femmes, donc là je la cite, les femmes sont encore écartées des fonctions au sein de l'Église catholique par une hiérarchie exclusivement masculine. Pour de nombreuses croyantes, cela constitue un déni injuste et douloureux de leur vocation, a-t-elle estimé. Alors, comme on le sait aussi, c'est peut-être important de le rappeler, les évêques belges ont demandé à ce que l'ouverture aux femmes de plus de fonctions au sein de l'Église soit discutée lors du synode en octobre. Donc, le fait que cette fonction ne soit pas encore ouverte aux femmes, c'est connu. Alors, à quoi ça sert de postuler pour suivre la formation ?
À quoi ça sert ? Sûrement, dans son esprit, à cette dame, quand elle a porté plainte, elle estimait pouvoir avoir gain de cause et avoir accès à cette formation. Elle se sent discriminée par son genre, donc je pense que elle a essayé de, enfin, elle porte plainte pour justement essayer d'y remédier et peut-être changer.
Serge, à quoi ça sert de postuler pour la formation si on sait qu'on n'y a pas droit ?
Je ne connais pas cette dame, ni sa requête, ni ce qu'elle vise. Je crois que comme femme, elle prend position pour poser un acte en vue de faire évoluer les choses. Donc nous vivons en Église dans une situation totalement paradoxale, évidemment. Hein, parce que l'Église est une institution dans plusieurs sens. D'une part, elle est une institution dans le monde, qui a une visibilité, qui est ancrée dans la société, et elle vit dans un monde où la relation entre les hommes et les femmes a évolué et est allée vers davantage d'égalité. Dans toute la société civile, les femmes prennent des responsabilités de plus en plus importantes. Et donc l'Église vit un certain décalage par rapport à l'évolution de la société. Et c'est une dérive des continents, ou comme une dérive des continents, parce que l'écart, à mon avis, est même grandissant, parce que, étant donné que l'Église est une institution dans un autre sens, qu'elle est instituée par le Christ, qu'elle vient d'une tradition de 2000 ans, et qu'elle est universelle, avec tout ce que ça peut représenter comme pesanteur, et comme richesse, mais aussi comme pesanteur, d'avoir 2000 ans d'histoire et d'être partout dans le monde, il faut donc du temps, un grand consensus pour faire évoluer les choses. Dans cette tradition, il y a l'accès actuellement dans l'Église latine, depuis à peu près 1000 ans, pour l'ordination de... Depuis plus de 1000 ans, c'est une affaire d'hommes célibataires pour les prêtres et les évêques. Et cela l'a été tout un temps aussi pour les diacres. Et d'autre part, ça fait 2000 ans qu'on n'ordonne que des hommes à la suite des apôtres qui étaient des hommes. Alors, il y a, par rapport à ces deux sens du mot institution, il y a pour le moins une tension.
Donc vous dites que parmi les apôtres, il n'y avait que des hommes, mais Jésus a quand même aussi été suivi par des femmes. Je pense déjà à Marie et sa mère, Marie-Madeleine aussi, qui l'a beaucoup suivi, si je ne m'abuse. Alors pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas avoir accès à cette fonction, ou en tout cas même juste à la formation de diacre ? Est-ce qu'elles devraient pouvoir avoir accès à ça ?
Alors, formation, pourquoi pas? En fait, ça dépend ce que contient la formation. Je ne sais pas exactement par quoi ils doivent passer, mais en tout cas, je ne vois pas le but de suivre une formation qui vous forme à être diacre sans pouvoir l'être, au final. Donc, peut-être réformer tout ça. Ou si la formation contient, par exemple, des instruits les personnes, pourquoi pas apprendre? C'est toujours une bonne chose pour moi, selon moi.
Serge, vous avez dû passer par cette formation pour devenir prêtre?
Oui, mais bien sûr, par différents types de formations et par un parcours précisément non classique. Donc, j'en parle totalement à l'aise. Il faut rappeler d'abord qu'il y a beaucoup de femmes qui se forment aujourd'hui en théologie et qui sont dans les instituts diocésains, etc. Et des femmes qui vont jusqu'au bout au couronnement des études théologiques, jusqu'à défendre une thèse, etc. Et à donner cours, y compris à des futurs prêtres. Donc, il y a pour le moment une évolution et une présence, même si elle est encore marginale dans certains lieux, de femmes dans la formation et dans la théologie. Il y a aussi énormément de femmes qui sont de facto responsables de communautés sur le terrain, parce que on enlève les femmes aujourd'hui en Belgique dans l'Église catholique à tous les niveaux de service. Je crois que l'Église s'effondre, donc elles ont une place de fait qui est tout à fait considérable.
Mais justement, désolé de vous couper, l'évêque auxiliaire de Bruxelles est parti pendant un an et justement il a été remplacé par une femme. Donc ça rejoint.
Il y a deux réalités. Il y a un évêque auxiliaire qui est parti, donc on ne sait pas très bien où d'ailleurs, qui a été remplacé par un prêtre. Et puis, il y a eu un évêque qui est arrivé à l'éméritat, à la pension, si on veut, pour qu'on se comprenne, et qui est remplacé par une déléguée générale femme.
Il me semble qu'à Bruxelles, il y a aussi une dame qui a
été... Mais il y a une dame qui est adjointe du prêtre.
Okay. Voilà. Donc, on met les choses à leur place, merci.
Voilà, pour que, tout simplement, être factuellement... Donc, il y a évidemment des tentatives et des décisions qui vont en tout cas sur le plan symbolique dans le sens d'un rééquilibrage. Le pape a nommé lui-même toute une série de femmes au synode par exemple, et il y en a certes, et aussi dans la curie un certain niveau de responsabilité, mais n'empêche qu'à un certain niveau ça cale, et donc c'est évidemment la difficulté, et je ne vois pas de solution. Sinon de toucher un certain nombre de fondements. Donc on peut avoir une situation, on l'a avec la situation d'une déléguée épiscopale par exemple, qui se retrouve de facto un peu à la tête des prêtres, et puisqu'elle a toujours bien fait son boulot, etc., il y a plutôt une relation de confiance. Mais en même temps, le même évêque dit il n'y aura jamais d'ordination des femmes. C'est ce qu'il a rappelé encore récemment. Pas jamais, mais enfin, il a dit ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est un peu comme sur un chantier, il y a 50 ingénieurs civils en construction qui travaillent, et tout à coup, on met comme responsable un master en biologie ou un master en philologie romane qui a une formation et une histoire différente et qui ne sort pas du même type de formation. Et au-dessus du marché, on dit à ce master en biologie ou ce master en philologie romane, on lui dit, même si vous avez envie de faire les études pour le devenir, vous ne pouvez pas. Mm-hmm. Parce que pour le moment, c'est réservé aux hommes. Et donc, on sent bien donc que là, le modèle a des limites. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir cette... Je ne connais pas du tout le dossier. Cette plainte ou cette revendication d'une personne de Herent, donc c'est pas loin d'ici, c'est près de Leuven, qui se dit, je vais en tout cas voir comment la jurisprudence réagit. Parce que l'Église est à la fois une communauté particulière à l'intérieur de la société, et elle a ses propres règles, elle a d'ailleurs ses propres juridictions, quelque part, mais en même temps, elle est composée de personnes qui sont aussi citoyennes et qui peuvent, au titre de citoyens, interpeller. Il y a un beau cas de jurisprudence en France pour le moment d'une religieuse qui a été exclue de son monastère, de sa communauté, et qui réclame des dommages intérêts devant une juridiction civile. Et donc, il y aura, je pense, de plus en plus et ce sera de plus en plus ressenti, une tension entre ce qui apparaît être une dualité, quelque part, institutionnelle.
Alors, Serge, si vous me permettez, j'aimerais proposer à Sari de faire une petite comparaison avec l'islam, étant donné que l'islam, Sari, c'est votre religion, donc vous maîtrisez un peu mieux le sujet. Les femmes, est-ce qu'elles peuvent avoir ce genre de rôle que cette dame demande, donc d'être ordonnée? Alors, on n'est pas ordonnée imam, hein, ça, on le sait, mais est-ce qu'elles peuvent prendre ce genre de rôle?
Justement, avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur ce que disait Serge. Justement, vous dites qu'il y a une dualité. L'article 21 de la Constitution assure l'autonomie des cultes. Donc, c'est-à-dire que le droit civil, normalement, ne peut pas dire comment le droit canonique doit être régi, tant que le droit canonique, bien évidemment, ne propose pas de faire des choses illégales comme le meurtre ou que sais-je. Mais donc, comme vous le dites, je pense que dans le futur, il y aura une évolution, il y aura une opposition entre ces citoyens qui sont dans l'Église et l'Église elle-même qui est une institution qui a ses propres lois, comme vous dites. Pour revenir à votre question, donc, vous m'avez dit, est-ce qu'une femme peut avoir un statut
Ce genre de statut, voilà. Effectivement.
Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir que dans l'islam, c'est pas comme dans le catholicisme, il n'y a pas de rôle prédéfini religieux. Il y a un imam, il y a ce qu'on appelle aussi un cheikh, il y a d'autres appellations, mais il faut savoir qu'un imam, il n'est pas ordonné imam, par exemple, il n'y a pas de cérémonie. C'est la plupart du temps un homme qui préside la prière, qui sait réciter le Coran, qui est musulman, par exemple. Et qui a des connaissances sur l'islam. Une femme ne peut pas être imam à proprement parler. Imam, ça veut dire guide en soi. Mais la femme peut guider la prière d'autres femmes, par exemple, mais pas devant les hommes. Donc dans ce cas-là, elle peut pas être imam si on parle des termes. La différence avec un cheikh, par exemple, le cheikh, c'est quelqu'un qui a suivi un cours religieux, donc qui a un bagage religieux qui...
L'équivalent de notre séminaire, par exemple.
Par exemple, voilà. Et ça, c'est déjà des différences par rapport au catholicisme et à l'islam. Mais donc, une femme, en soi, elle peut enseigner la religion. Elle peut participer. Après, il y a des différences. Hein, la mosquée et l'église, c'est pas du tout la même hiérarchie, les mêmes prédispositions. Mais bien entendu, elle peut guider la prière entre femmes et elle peut enseigner et surtout, elle peut s'instruire. Parce que dans l'islam, il y a une obligation de s'instruire. Donc tout le monde doit recevoir des études religieuses. Tout le monde a le droit d'avoir des études religieuses.
Merci pour cette petite comparaison à Sari. Alors, on va revenir à ce sujet des femmes qui peuvent ou non devenir diacres. On l'a dit, les évêques belges ont demandé à ce que ce soit discuté lors de la prochaine étape du synode. Serge, est-ce qu'on peut espérer de sérieuses discussions sur le sujet lors du synode en octobre?
J'en sais rien, je crois que ce sera assez la bouteille à encre. Donc, le synode aura-t-il l'occasion de se pencher sur tous les dossiers qui sont pendants en Église, on verra. Je crois que ce type de revendication sera certainement soutenu par des Européens, peut-être par quelques autres parties du monde, mais je crois n'est pas mûr pour un certain nombre d'Églises. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va prendre du temps et je ne suis pas du tout optimiste quand dans le rapport du synode de l'année dernière on indique que on a abordé le diaconat féminin, qu'il y avait du pour et du contre et qu'on va remettre globalement les choses à l'étude. Donc en Église, on sait ce que ça veut dire remettre les choses en étude. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ceci dit, je crois qu'il y a aussi cette volonté du pape d'une certaine décentralisation, donc d'une approche qui peut être continentale. Et donc ça me paraît peut-être être la solution pour rencontrer un certain nombre de difficultés. C'est l'application définitive d'une notion très, très, très fondamentale de l'enseignement social de l'Église, c'est la subsidiarité. Alors, donc voilà, donc le pape veut créer un état d'esprit. Nous, on vient d'annoncer dans notre paroisse que nous allions entrer en démarche synodale.
Au sein de la paroisse.
Ah, oui, à ma connaissance, c'est là. Ce n'est pas pour être les premiers ou pour être original, mais je pense que c'est la première fois qu'on mène ce type d'expérience. Donc je crois qu'il y a un état d'esprit, une volonté d'y arriver. On dit les diacres catholiques aujourd'hui peuvent être mariés, ils peuvent d'ailleurs être célibataires aussi. Mais ça date de quand? Ça date de Vatican II. Pendant des siècles, ça n'a pas été possible. Donc je crois qu'il y a des petits pas qui peuvent être faits. Alors il y a toute la question de l'histoire du diaconat et de savoir si pendant les premiers siècles, le diaconat a aussi été féminin au début de l'Église. Et donc c'est relativement flou, parce qu'il y a des sources qui semblent l'indiquer assez sérieusement, mais d'autre part, c'est très discuté. En tout cas, il y a pu avoir un accès de femmes à des fonctions relativement significatives au début. Et ce n'est sans doute qu'après, avec l'institutionnalisation de l'Église, que les choses se sont un peu resserrées. Donc ça, c'est aussi une piste, alors qu'on n'a pas le même flou, la même discussion sur l'accès au ministère ordonné de prêtre, par exemple.
Merci à tous les deux pour vos éclairages sur ce sujet. Le prochain épisode, donc, pour cette plainte, c'est le 14 mai et en octobre pour la discussion générale au Synode. Et nous allons faire maintenant une pause en musique avec Steve Barrow et It Doesn't Really Matter. On se retrouve tout de suite pour vos Zooms. I wanna sing a few words beyond everything that hurts. My soul, you faced it all, yet the faith isn't gone. Forgive me, soul, for what I've done. More than 1,000 years old. Whatever your shell, you're beautiful. I call you by your name. This life is just a game, and you keep coming back again. Life is just a game, I keep you undercover. In the end, no.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous revoici pour la dernière partie de ce décryptage, votre émission Cato Bell sur RCF. Et il est temps pour nous de passer au Zoom de nos décrypteurs du jour, Sari Oreibi et Serge Mauque. Alors, qui commence ? Il me semble qu'on a dit Sari, vous vouliez commencer.
C'est ça.
Et vous allez nous parler d'un artiste qui s'appelle Saint-Levant.
Saint-Levant, exactement. Alors, j'ai découvert en fait ce samedi un artiste qui se fait appeler Saint-Levant, comme vous l'avez dit, de son vrai nom Marwan Abdelhamid. C'est un artiste en fait palestinien d'origine qui est né à Jérusalem. Il est assez jeune, hein, il a 23 ans il me semble. Et en fait, il a fui à ses 7 ans en Jordanie et après il a atterri du coup aux États-Unis en Californie. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il a performé ce samedi à Coachella, le festival de Coachella, pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival qui est considéré comme l'un des plus importants des États-Unis avec une renommée mondiale. C'est à la fois un événement musical, artistique, mondain, médiatique et il y a un succès énorme, même financièrement. Voilà. Et ce qui est chouette en fait avec ce festival, c'est qu'on découvre plusieurs artistes, des artistes de partout, donc pas seulement des artistes américains. Ça, c'était la petite parenthèse Coachella. Pour revenir sur Saint-Levant, c'est donc un rappeur gazaoui, mais surtout un artiste engagé pour la cause palestinienne. Justement, quand il était sur scène, il a performé et interprété des nouveaux titres. Son titre le plus connu, il me semble que c'est From Gaza with Love, qu'il a sorti en 2023. Et donc, sur scène, il a chanté ses musiques et il a bien entendu fait un petit discours pour le peuple palestinien et le conflit. Son nom de scène, je le trouvais assez intéressant, Saint-Levant. Saint peut-être pour symboliser quelque chose de pur, je pense. Et le vent qui fait référence à ses origines, le Levant. En ce moment, il cartonne sur les réseaux sociaux. 1 million d'abonnés sur Instagram et presque le million sur TikTok. Je pense qu'il a encore un long chemin d'artiste devant lui et à nous faire découvrir.
Merci Sari pour cette découverte et donc pour ceux qui veulent aller le retrouver sur les réseaux sociaux et sur les plateformes Saint-Levant. Serge, vous vouliez nous parler d'une session à la Perelle. Dites-nous.
Oui, moi ce week-end, de vendredi soir à dimanche soir, j'ai été un peu coupé du monde. Je ne suivais pas tellement les performances des artistes palestiniens sur TikTok. j'étais dans une atmosphère de... plutôt de très grand calme, de grande sérénité, avec guidant et accompagnant surtout des personnes qui assistaient à une session que je co-animais sur le lien entre évangile et coaching, développement personnel. Et donc ce sont toujours des moments importants parce que pour les personnes qui s'y trouvent, ce sont des moments de mise à plat de pas mal de réalités et des moments qui sont aussi parfois très émouvants ou éprouvants, etc. Et c'est donc une expérience très riche et très intéressante. Et alors ça se fait dans des lieux qui sont des lieux religieux. Ici, c'est le centre... spirituel ignatien, donc c'est la compagnie de Jésus, les jésuites, mais il y a d'autres centres, j'en connais pas mal dans l'ordre dominicain aussi, où les abbayes bénédictines ou cisterciennes, qui proposent des lieux généralement très, très porteurs pour cela, mais dans le climat que nous vivons, de hausse des prix des carburants et de l'entretien, etc. Il y a pas mal de ces centres qui ont beaucoup de difficultés. Et donc je crois que c'est un point d'attention pour les chrétiens, pour la société, de se demander dans quelle mesure ce serait pas un peu dommage que certains de ces lieux soient abandonnés ou n'aient plus d'avenir. Je crois que notre monde a terriblement besoin d'îlots de paix, d'îlots de calme, et cela mérite le respect et le soutien.
Merci pour ce zoom et cette petite histoire personnelle. Encore une fois, Serge, vous me racontez souvent vos week-ends dans vos zooms, j'aime bien. Il est temps pour nous d'accueillir Pierre Granier, secrétaire de rédaction chez Cato Bell, pour nous parler du journal dimanche de la semaine. Dites-nous Pierre, que peuvent lire nos auditeurs cette semaine ?
Bonjour Armel et bonjour à tous. Le journal Dimanche revient cette semaine sur une décision prise fin mars par l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, à savoir que la paroisse Don Bosco de Boisingen, près de Halle, allait perdre son statut. Après un an et demi de discussion, des divergences fondamentales persistent en effet sur la façon dont les sacrements sont célébrés dans cette paroisse, dite paroisse rebelle. Une telle décision n'a pas manqué de susciter des réactions. Certains se demandent si, de fait, cette communauté paroissiale est toujours catholique. Pour les uns, la réponse est nettement oui. Pour les autres, elle est définitivement non. En cause principalement, la façon dont les sacrements sont célébrés à Don Bosco, en particulier l'Eucharistie. Alors justement, comment l'Eucharistie y est-elle célébrée? Le mieux était évidemment d'aller voir sur place. Et c'est Christophe Herings, journaliste et théologien, qui est allé à Boisingen vivre une célébration dominicale sans prêtre. Son reportage suivi d'un décryptage est à retrouver en pages 8 et 9. C'est un homme humble et discret qui est l'invité du grand entretien cette semaine. Pourtant, pendant plus de trois décennies, par ses enseignements, ses recherches et ses engagements, Henri de Roite a largement contribué à façonner le visage de l'Église de Belgique. Le vice-doyen de la faculté de théologie et d'études des religions de l'UC Louvain accède cette année à l'émérita. À cette occasion, une rencontre avec lui s'imposait. Il développe pour dimanche quelques-uns de ses credos. L'Église de Belgique doit investir dans la formation des laïcs, assumer son caractère métissé et s'engager dans des combats de société. Les propos recueillis par Vincent Delcor à lire en pages 2 et 3. Ce numéro de dimanche revient également sur l'euthanasie. Le 8 avril dernier, en effet, le Vatican publiait un texte consacré à la dignité humaine, on en a largement parlé la semaine dernière, et hasard du calendrier, ce même 8 avril, Luc Van Gorp, président de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, alertait dans deux journaux flamands sur les coûts engendrés par le vieillissement de la population, et de plaider pour une forme d'euthanasie plus douce, afin d'aider les personnes âgées qui le souhaiteraient à mourir, même sans qu'elle souffre d'une maladie particulière. Des propos qui ont nourri le débat dans les jours qui ont suivi et poussé les évêques de Belgique à réagir à leur tour afin de défendre le respect fondamental de la vie humaine et en premier lieu celle des plus vulnérables. Tandis que Hilde Kiboum, présidente de Santé Gidio Belgique, expliquait pour sa part que la mort ne pouvait pas être encouragée. Un article également signé par Vincent Delcor à lire en page 5. Et pour terminer, je vous convie au festival Heart of Faith. Cette grande fête de l'œcuménisme aura lieu le week-end du 3 au 5 mai à l'abbaye de Bornem, diocèse d'Anvers. Après avoir attiré 1500 participants l'an passé, lors de sa première édition, ce festival revient cette année avec le même objectif audacieux, mettre l'œcuménisme sur le devant de la scène. Au programme, des concerts, des ateliers, un marché de la foi, des rencontres, des témoignages. Clément Laloyau nous en dit plus en page 4. Bon week-end de lecture avec Dimanche.
Merci Pierre, merci Serge, Sahri d'être venu et d'avoir décrypté l'actualité avec nous.
Ah, merci beaucoup.
Merci à vous Armel.
Vas-y, ce sont tous les deux regardés en mode, est-ce qu'on doit lui dire au revoir, merci. C'est toujours plus sympa. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en podcast sur katobel.be et sur rcf.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau décryptage.